c'est-à-dire la bactérie Mycobacterium tuberculosis qui a infecté la personne. Et la personne présente les signes cliniques, donc tous les signes cliniques de la tuberculose. À cet instant-là, cette personne a la maladie de la tuberculose parce qu'elle fait la tuberculose active. Maintenant, lorsqu'on parle seulement de la tuberculose seule, la tuberculose en un seul regorge les deux phases, donc la phase latente et la phase active. La phase latente, c'est celle que la personne n'a pas de signe clinique, ne fait pas la maladie, elle n'est pas contagieuse, peut vivre longtemps avec sans pour autant qu'il puisse faire la maladie. Et l'OMS dit que rare, peut-être 10% seulement de la population atteinte de la tuberculose latente arrive à la tuberculose active. Par contre, la tuberculose active, elle, la personne présente des signes cliniques et fait déjà la maladie et elle est contagieuse. Donc, cette dernière peut transmettre la maladie à une autre personne. Donc, la différence, c'est ça. Quand on parle de la maladie tuberculeuse, c'est qu'on est en phase de la tuberculose active. Mais quand on parle seulement de la tuberculose, cela regorge les deux types d'infections, tuberculose latente et la tuberculose active.
Ah, d'accord. La différence, elle est vraiment claire.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, quels sont les symptômes? Ça, c'est une question d'Alphonse Boaki. Quels sont les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose?
Eh bien, les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose sont le plus souvent. La personne a une toux, fait de la toux qui se prolonge pendant voire deux semaines à plus. Ça, c'est les premiers signes cliniques. Et l'autre, c'est la fièvre. Donc, vous avez une fièvre qui traîne avec souvent des sueurs nocturnes et il y a aussi des essoufflements, des douleurs au niveau de la poitrine, un état de fatigue, donc l'asthénie physique, une diminution d'appétit, une perte de poids. Voilà un peu les signes cliniques de la tuberculose.
Nous allons revenir sur quelles sont sur les différentes causes. Ça, c'est une question de Schultz Bekel. Il veut savoir quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la tuberculose. Certainement, quelles sont les causes de la tuberculose pulmonaire, bien sûr, parce que là, nous sommes en train de parler de la tuberculose pulmonaire.
Les facteurs de risque souvent de la tuberculose, c'est d'abord la promiscuité, hein, la promiscuité dans les habitats, la malnutrition, il y a les mauvaises conditions sanitaires. Il y a aussi le surpeuplement et bien évidemment un manque de suivi médical en général. Voilà un peu les facteurs de risque de la tuberculose.
Thomas Sankara veut savoir si un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire.
Oui, bien évidemment. Un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire seulement s'il se retrouve dans un environnement où... comme je venais de citer, où il y a tous ces facteurs de risque là. Donc, s'il se retrouve dans un environnement de promiscuité ou bien une personne est atteinte déjà de la tuberculose, ce qu'on appelle par des cas contacts, il peut bien contracter la tuberculose. Les facteurs de risque comme la malnutrition, si la personne ne fume pas, mais elle est malnutrie, ce sont des facteurs de risque qui peuvent le prédisposer à avoir la tuberculose, les mauvaises conditions sanitaires, la promiscuité, tout ça là, même si vous êtes non-fumeur, mais si vous vous retrouvez dans ce genre d'environnement, et bien évidemment, vous pouvez être exposé à contracter la tuberculose.
Alphonse Boaki a posé une question sur la tuberculose osseuse, mais il va devoir patienter lors de nos prochaines éditions. Nous reviendrons spécifiquement sur la tuberculose osseuse. Mais il veut savoir combien de temps peut s'écouler entre le temps où la personne a contracté peut-être le virus et le temps où la maladie se déclenche.
Oui, le temps d'incubation pendant la période où la personne a contracté la bactérie est souvent de 2 semaines, voire plus. Donc, si aujourd'hui vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse, il faut savoir que la tuberculose est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Donc, en parlant, en toussant, en étant tout en contact avec une personne tuberculeuse, donc par ces postillons qui sont en l'air, et que vous êtes en contact avec ces postillons-là. Donc, le temps d'incubation peut être de 2 semaines et plus pour qu'on puisse faire la maladie. Cela aussi dépend du système immunitaire de la personne. Si la personne a un système immunitaire qui n'est pas immunodéprimé, donc qui n'est pas affaibli, donc il peut résister assez longtemps. Mais si déjà le système immunitaire de la personne est immunodéprimé, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a déjà l'infection du VIH, alors là, ben, le risque de développer la maladie sera encore un peu plus court, quoi, donc voire 2 semaines et plus.
Il faut aussi savoir si, en dehors de la toux persistante, il y a d'autres symptômes qui peuvent révéler qu'une personne est atteinte de la tuberculose pulmonaire.
Oui, c'est en dehors de la toux persistante, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord la fièvre traînante avec des sueurs nocturnes, des douleurs au niveau de la poitrine, la perte de poids, l'asthénie physique et la perte d'appétit. C'est tous ces signes-là qui sont des signes cliniques de la tuberculose.
Et comment se fait le diagnostic? Est-ce qu'on peut le faire facilement à la maison ou il faut se rendre dans un centre hospitalier?
Et le diagnostic, il faut se rendre dans un centre hospitalier, se faire consulter par un médecin. Et le diagnostic dépend d'abord, premièrement, du type de tuberculose. Si c'est la tuberculose latente, donc il y a des tests immunologiques qui se font, à savoir les tests intradermiques et les tests intra. Et si c'est la tuberculose active, donc si la personne a déjà tous ces signes cliniques, eh bien, on fait la microscopie de crachat, on fait la culture des mycobactéries et des tests moléculaires pour pouvoir faire le diagnostic de la tuberculose.
Il y a Touré Vakaba, il dit, docteur, quelle explication donnerez-vous à un patient qui présente des signes, notamment une toux interminable, mais dont les examens biologiques ne sont pas affirmatifs?
Pour un patient qui présente une toux interminable, déjà une toux qui met beaucoup de temps, rend suspicieux. Ce que je le penserais, puisqu'il a dit que les examens
n'ont rien présenté.
Oui, les examens n'ont rien présenté. Ce que je lui demanderais, c'est de repartir chez voir le médecin, parce qu'il reste à savoir dans le diagnostic. Vous savez que la microscopie, c'est une qui n'est pas suffisamment sensible, donc qui détecte près de 43% seulement les bacilles tuberculeuses. Donc, il serait nécessaire pour cette personne de repartir voir son médecin et voir avec quel test, quel est le test qui a été utilisé pour pouvoir détecter la tuberculose et changer, essayer un autre test, par exemple, si c'était la microscopie, faire la culture ou bien faire les tests moléculaires, pour pouvoir avoir une confirmation si oui ou non la personne a la tuberculose ou n'a pas la tuberculose.
Jean-Claude Moulaja nous écrit depuis Mbujimayi en RDC. Il veut savoir si la tuberculose est héréditaire et si une mère qui porte la tuberculose peut donner naissance à un enfant non atteint ou à un enfant atteint de la même maladie.
Concernant l'hérédité de la tuberculose, puisque c'est une maladie qui est guérissable d'abord. Je pense que la tuberculose, quand elle est bien traitée, quand on a bien suivi son traitement jusqu'à terme de son cure et on est guéri, je ne pense pas qu'on puisse le transmettre. Alors, s'agissant de la mère qui est tuberculeuse, qui peut donner naissance à un enfant non atteint, cela est possible. Oui, une femme qui a la tuberculose peut donner naissance à un enfant qui n'a pas la tuberculose, si et seulement si, pendant que la femme a la maladie de la tuberculose, elle est suivie, elle est sous traitement. Si elle est sous traitement, elle mettra au monde un enfant sain. Mais si elle n'est pas sous traitement et que cette tuberculose qu'elle a se complique, c'est-à-dire que devient une tuberculose qui se propage tout le long des autres organes. Par exemple, pour une femme enceinte, vous savez que tout passe par la voie hématogène, donc la voie sanguine. Et à travers le cordon ombilical, elle peut transmettre la tuberculose à l'enfant. Mais c'est des cas vraiment très rares.
OK. Je sais que nous reviendrons sur le vaccin dans notre émission de la semaine prochaine, quand nous allons parler du traitement et de la prévention aussi. Mais quelqu'un veut savoir, quelqu'un dit, j'ai été vacciné contre la tuberculose. Est-ce que je peux tout de même être contaminé encore ou bien être contaminé simplement?
D'accord. Si c'est une personne adulte, je dirais oui. Parce que le temps de l'immunité du vaccin BCG, vaccin Tamer-Guérin, est de 10 ans. Donc, lorsqu'on atteint déjà l'âge adulte, on n'a plus l'immunité. C'est-à-dire le vaccin qu'on a pris il y a 10 ans de cela ne nous protège plus. Bien évidemment, même si on a été vacciné dans l'enfance, dès qu'on devient adulte, oui, on peut être exposé à contracter la tuberculose.
Un autre auditeur dit, j'ai eu un contact avec une personne souffrant d'une tuberculose pulmonaire. Que dois-je faire maintenant?
Il faut se rendre dans un centre de santé, consulter un médecin pour qu'il puisse évaluer et évaluer le risque et voir dans quelle mesure vous faire des tests pour pouvoir savoir si vous avez contracté ou pas la tuberculose.
J'ai été contaminée. À quel moment pourrais-je mettre d'autres personnes en danger?
Vous avez été contaminée. Eh bien, disons, le temps d'incubation, le temps que vous avez été contaminé, si vous êtes en contact, comme j'ai dit que c'était une maladie qui se transmet par voie aérienne, cela peut prendre 2 semaines, voire plus, pour que vous puissiez contaminer une autre personne. Mais lorsqu'on a une tuberculose qui est latente, qui n'a pas de signes cliniques, on ne fait pas la maladie, il y a moins de risques vraiment. Tu ne peux pas contaminer parce que pour contaminer, il faut que tu aies des signes cliniques permettant de transmettre la maladie à quelqu'un.
Madame Darrell Elion est enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville en République du Congo. À présent, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida et les inégalités perdurent. Le docteur camerounais Boris Tchunga nous en dit plus sur la lutte contre le sida chez les enfants. Et le dépistage du VIH, pourquoi et comment? Ensuite, la militante nigériane contre le VIH, Debra Samuel, lutte pour être la voix des sans-voix. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. 40 ans après la découverte des premiers cas de sida, la lutte contre le VIH continue. Jusqu'à présent, environ 40 millions de personnes dans le monde ont perdu la vie à cause de la maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé. La journée mondiale de lutte contre le sida, commémorée chaque année le 1er décembre, met en lumière cette année les inégalités. Selon l'ONU-SIDA, les inégalités freinent les progrès vers l'éradication du sida et prévalent toujours pour les services les plus élémentaires comme le dépistage, le traitement et l'accès aux nouvelles technologies. Entre autres, seulement un tiers des personnes à risque, telles que les homosexuels et les usagers de drogue, ont un accès régulier aux méthodes de prévention. En Afrique, les jeunes femmes et les adolescentes restent touchées de manière disproportionnée par le VIH. Des progrès considérables ont été réalisés pour réduire le nombre d'enfants nés avec le VIH. Mais les observateurs disent qu'il faut mettre davantage l'accent sur les aides pédiatriques pour assurer que les enfants en Afrique subsaharienne continuent de recevoir les soins dont ils ont besoin.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, à la fin de l'année 2021, environ 38 millions de personnes vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine VIH. Il n'existe aucun remède contre l'infection par le VIH. Cependant, les experts affirment que des antirétroviraux efficaces peuvent contrôler le virus et aider à prévenir sa transmission. Mais l'adhésion au traitement reste un défi pour de nombreux patients.
ART est un traitement à vie. Vous devez prendre les médicaments tous les jours, vous devez être inlassable, vous devez prendre ces médicaments sans relâche tous les jours. Et certains patients éprouvent une lassitude vis-à-vis des médicaments. Ils finissent par avoir un certain dédain à l'égard de ces médicaments et ils sont également confrontés à une forte stigmatisation à cause du VIH.
Au fil des années, les progrès de la médecine ont permis aux gens d'avoir plus de choix en matière de prévention et de traitement. Parmi ceux-ci figurent le cabotegravir, injectable à action prolongée, utilisé pour la prévention et le traitement du VIH. Des pays africains comme le Zimbabwe ou l'Ouganda ont approuvé l'utilisation de ce médicament injectable. Selon les scientifiques, ce médicament pourrait contribuer à améliorer l'adhésion des patients au traitement, car il est facile à utiliser.
Je suis très heureuse de passer des pilules PrEP aux injectables. C'est une superbe évolution, car avec les pilules PrEP, je dois me rappeler qu'aujourd'hui, il faut que je prenne les cachets avec moi. Je travaille dans une clinique mobile, je rentre parfois très tard chez moi et je dois quand même prendre mes pilules PrEP. Je sais que le traitement injectable est dans mon corps, je me déplace avec l'injection au lieu de marcher avec le bruit des pilules. Du coup, oui, je suis très heureuse.
Si les progrès de la médecine ont amélioré la vie des personnes séropositives, l'ONU SIDA signale que les inégalités provoquent une augmentation des nouvelles infections et que des personnes continuent de mourir faute d'accès aux services de prévention et de traitement dont elles ont besoin. Selon l'OMS, plus de 18 millions de personnes sont sous traitement à vie contre le VIH dans le monde, mais un nombre quasi égal de malades n'a pas accès au traitement.
Le docteur Boris Kevin Chunga est directeur associé de l'évaluation de la santé publique à la Fondation Elizabeth Glaser au Cameroun. Il élabore sur les avancées et défis dans la lutte contre le sida pédiatrique.
À ce jour, il y a eu de nombreux progrès parce que le VIH pédiatrique a toujours été un peu la partie négligée de l'iceberg parce qu'on s'intéressait aux adultes. Mais il est évident que de nombreux progrès ont certes été faits avec la PTME pour éviter que les enfants ne soient contaminés à la naissance. Mais malgré tout, du fait de tous les challenges opérationnels, notamment les distances, notamment les zones rurales, notamment les ruptures de médicaments et tout, nous avons encore des enfants qui naissent malheureusement avec le VIH et dans nos programmes, nous mettons en œuvre un ensemble de stratégies pour nous assurer que lorsqu'un enfant naît avec la maladie, il ait accès à tous les traitements et à tous les services qui permettent d'assurer sa survie. On a aujourd'hui des taux de mortalité exceptionnellement bas chez les enfants grâce à toutes les approches qui consistent à assurer la survie de ces enfants. Et parmi ces approches, en plus de cohorte mère-enfant, nous avons ce qu'on appelle les approches communautaires. C'est-à-dire que la formation sanitaire se déploie dans les villages, se déploie dans les campagnes pour identifier. Nous travaillons de façon rapprochée avec les matrones, les accoucheuses traditionnelles que nous formons et nous leur expliquons la nécessité de renvoyer les femmes à l'hôpital, pour que les mères à l'hôpital, pour qu'on puisse assurer et éviter la transmission mère-enfant. Donc nous avons ces approches communautaires déjà dans la prévention, mais également des approches communautaires dans la dispensation des médicaments. Et je dirais à toutes les mamans que vivre avec le VIH n'est pas une fatalité. On peut avoir des enfants lorsqu'on vit avec le VIH. Par contre, on a le devoir de tout faire pour que ces enfants naissent en bonne santé. Et pour cela, il faut se rendre à la formation sanitaire, il faut se faire tester, il faut accepter de prendre le traitement correctement, parce que lorsqu'on prend correctement son traitement, on est sûr qu'on ne va pas transmettre le VIH à son enfant. Et si c'est le cas, si jamais l'enfant a été infecté, ce n'est pas grave, parce que de la même manière que la mère vit avec les traitements suffisamment longtemps et vieillit normalement, son enfant va recevoir le traitement et va vivre longtemps.
Déborah Samuel est une militante qui œuvre dans la sensibilisation au VIH et lutte pour plus de soutien aux personnes vivant avec la maladie. Elle raconte son histoire.
Il y a des obstacles un peu partout lorsqu'il s'agit d'évaluer les attitudes, les jugements. Nous devons évaluer la stigmatisation et la discrimination, le manque de médicaments. Pourquoi la stigmatisation et la discrimination sont-elles liées au statut sérologique? Disons que si vous allez réaliser des tests de dépistage du VIH, vous serez choqué de voir le petit nombre de personnes qui viennent faire le test. Mais s'il s'agit d'un dépistage de l'hépatite, du diabète ou d'une simple IST, beaucoup de gens feront le test. Donc il y a beaucoup de stigmatisation. Les gens ne veulent même pas aller se faire dépister à cause du mode de transmission. Et parfois, si vous postulez à un emploi et que vous vous rendez sur place, ils ne vous disent même pas s'il faut un examen médical. On vous dit simplement que vous allez passer un test et ils prélèvent un échantillon à votre insu. Et quand ils découvrent votre statut sérologique, ils vous renvoient. C'est de la stigmatisation. Il y a une loi qui interdit tout cela. Une sanction est prévue pour toute institution ou organisation qui licencie son personnel ou le rejette en raison de son statut VIH. Mais en raison du manque de sensibilisation, beaucoup de gens ne connaissent pas la loi, ce qui les empêche d'obtenir des opportunités d'emploi. Mais la loi existe, et si vous l'appliquez, vous pouvez obtenir justice. Je trouve difficile d'évaluer le traitement. Laissez-moi commencer par le dépistage. Un jeune qui est, disons, sexuellement actif et qui n'a pas 18 ans révolu ne peut pas entrer librement dans un établissement de santé sans le consentement de ses parents. Et vous connaissez notre culture. Si vous êtes sexuellement actif en tant que jeune, beaucoup de jeunes ne sont pas à l'aise pour en parler avec leurs parents. Et je sais que je suis sexuellement active et j'ai peut-être les informations nécessaires pour aller dans un centre de santé pour obtenir des conseils. Mais en raison de la nécessité d'obtenir le consentement parental, je demande l'avis de mes amis qui ne sont pas informés. Et au bout du compte, le jeune finit par obtenir de mauvaises informations. Certaines personnes craignent d'aller à l'hôpital parce qu'elles connaissent quelqu'un. Peut-être que l'infirmière a un lien de parenté avec leur famille et peut-être que c'est l'établissement le plus proche d'eux, ce qui les empêche d'accéder au service parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de confidentialité.
Êtes-vous préoccupé par le VIH quand vous entamez une nouvelle relation? Dans quelle mesure pensez-vous qu'un test de dépistage du VIH est nécessaire avant d'être intime avec une nouvelle personne? Voici quelques réactions depuis Jos au Nigeria.
Je dirais qu'en ce qui concerne le VIH-Sida, personnellement, je sais qu'il est là, mais les gens ne sont plus conscients comme avant. Pour moi, il faut se faire dépister, bien sûr. Avant de me marier, j'ai fait le test. Donc, c'est quelque chose auquel je souscris. La vérité est que cela vous aide beaucoup, tous les deux, et aide aussi les enfants que vous pourriez mettre au monde.
Pour moi, le VIH n'est pas différent de l'hépatite, du diabète, de l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui peut être transmissible, comme les moustiques qui transmettent le paludisme, vous savez. C'est juste que je sais que c'est évitable. Et vous savez, j'y pensais, et avec le VIH, on n'en parle plus autant qu'avant. Mais je pense que c'est une conversation qui ne devrait pas s'arrêter avant que la maladie ne soit éradiquée. Des gens sont encore infectés, des gens meurent encore. Étonnamment, des gens meurent encore du sida, ce qui ne devrait pas être le cas. Faites le test, vous savez, ce n'est pas censé être stigmatisé. Il s'agit d'être ouvert.
Quand on regarde la situation au Nigeria, on a tendance à penser que le VIH n'est pas vraiment présent, car ce que nous vivons est relégué au second plan, mais il est là. Bien sûr, il y a les ARV, mais on vit toujours avec.
You still live with it.
Sexual promiscuity is on the rise.
La promiscuité sexuelle est en hausse. D'une part, il y a un manque de sensibilisation du côté des gens qui savent que oui, cette maladie est réelle. Et d'autre part, certaines personnes qui se disent que je fasse l'amour ou pas, je vais mourir de toutes les façons. Par conséquent, ils vont avoir des relations sexuelles inappropriées avec d'autres personnes.
La fin de notre programme, votre santé, votre avenir. Dans la première partie, nous avions reçu Mme Darèle Ignon, enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marengabi de Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi doctorante et mène des recherches sur la tuberculose à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Nous avons parlé des modes de transmission de la tuberculose, des signes qui doivent alerter et des personnes à risque. Dans la deuxième partie, Lilian Moudou vous a présenté Carnet de santé. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Elle vous a été présentée par Nanit Talami. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.